as the introduction, I'd like to notice a couple.
On va faire une introduction, pas sa chaleur.
Verses.
On va lire quelques versets dans Genèse chapitre 1.
In chapter 1, verse 10.
Chapitre 1, verset 10 à Genèse.
God called the dry land earth, and he gathered
Dieu appela la terre sèche, la terre. Il a vu que c'était bon. Il appela l'eau. Là où il y avait l'eau, il appela la mer.
Donc,
verset
18.
Il a vu que c'était bon au verset 25. À la fin, il fait l'homme, il créa l'homme. Dieu, il a vu que c'était bon, tout ce qu'il avait créé. Tournez vers votre voisin à côté, vous le dites très bon, très bien. Vous êtes bien beau, bien belle aujourd'hui. Il y a une question qui s'élève. Une partie dit que c'était bon et il a fini, il a fait l'homme, il a dit que c'était très bon. Qu'est-ce que c'est qu'il n'a pas dit? Il n'a pas dit « c'est parfait ». Il a dit « c'est très bon ». Tournez vers votre voisin et dites-lui à votre voisin, dites « ne pensez même pas, ce n'est pas parfait, n'y pense même pas à cela ». Ok, attends, arrête-toi. Il y a une autre partie à cela, au chapitre 2. Verset 2. Le septième jour, Dieu finit son travail et il se reposa le septième jour. Toutes ces œuvres, mercredi, on a eu un message sur le sabbat. C'était incroyable. C'était incroyable le message qu'on a eu mercredi dernier. Le premier. C'est pas tout le monde n'était pas là. Mais allez au site internet, écoutez si vous pouvez. Voici le point ici. Est-ce que Dieu doit se reposer? Il est Dieu, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'il a besoin de se reposer. Pourquoi est-ce qu'il est écrit qu'il doit qu'il se repose? Pourquoi est-ce que c'est écrit là? Qui se repose? Il se repose tout le temps dans un sens. Il est Dieu. Il est satisfait avec lui-même, il est satisfait dans la Trinité, son Fils, le Saint-Esprit, la communion dans l'amour. Ils sont infinis, ils sont puissants. Il a dit c'était très bon, et ensuite il est écrit, il se reposa. Et à partir de cela, je voudrais vous suggérer quelque chose. Voici, vous et moi, on devrait regarder à la vie et dire c'est très bon. Même si on est sous une malédiction, il y a des cimetières, des pierres tombales, des tombeaux, on a la crainte, on tremble, la culpabilité, on a de l'insécurité en nous. Mais Dieu, non seulement il a créé le monde, mais il a dit, c'était très bon. Mais il est venu en tant que Christ. Et lorsque Christ est mort sur la croix, presque le dernier mot qu'il a dit était le suivant. Très connu pour nous dans ce ministère. C'est quoi ces mots? Tout est fini. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est quoi qui est accompli? C'est fini. Lorsque Christ avait 12 ans, les premiers mots qu'il a dit, ne savez-vous pas que je dois aller aux affaires de mon Père? Ses premières paroles, je suis ici pour les affaires de mon Père. Et ses dernières paroles sur la croix, il dit, c'est accompli. C'est quoi qui est fini? Les affaires de mon Père, de nous racheter, de nous sauver, de répandre son sang, d'expier pour nos péchés. Christ a expié l'agneau de Dieu qui a pris les péchés du monde, entre les péchés du monde. Il nous donne un nouveau commencement afin que nous sommes nés du Saint-Esprit, nés de Dieu. Christ est venu vers nous afin qu'on ne meure pas. Jean 11, 25. Christ est venu afin que l'on puisse dire cela de cette façon-là. Ça, ce sont mes paroles à moi, mais écoutez. Dieu peut dire, c'est très bon, lorsque Christ est mort, le sacrifice du Fils de Dieu, Dieu a dit, c'est très bon. Et même au-delà de ça, infiniment, incroyablement, avec une incroyable signification pour tous, chacun d'entre nous, on est sauvés par le sang. Nous sommes rachetés par la grâce de Dieu. Vous êtes dans le royaume de Dieu grâce à Jésus-Christ. Aucune autre raison. Christ l'a fait. Et maintenant, le Père se repose dans l'œuvre accomplie. Et nous aussi. Tournez rapidement dans Hébreux chapitre 4. On va voir le verset au tableau aussi, là, à l'écran. Hébreux chapitre 4. Nous entrons dans son repos. Hébreux chapitre 4, verset 9.
There remains therefore a rest.
Donc, il y a un repos.
Have you ever been on a vacation and you didn't
pour le peuple de Dieu? As-tu jamais été en vacances et tu ne t'es pas reposé après? Tu vas camper et il pleut tous les jours. Tu vas dans un hôtel. On connaît ces histoires-là. As-tu jamais dit à la fin de la semaine, tu dois avoir du repos ce week-end? Et peut-être tu as dormi, tu as fait tout ce que tu as pu, mais tu es réveillé la nuit, tu es troublé, quelque chose t'embête. Il y a des sentiments qui t'embêtent, qui te persécutent ta pensée, quelque chose qui n'a pas été fait, quelque chose qui est cassé, brisé, quelque chose comme cela. Oui.
So what should we do?
Qu'est-ce qu'on doit faire?
Enter into
entrer
his rest,
dans son repos.
Says,
il est dit, c'est très bon, la création
says,
et la rédemption, il a dit, c'est accompli.
Now
tout est fini. Maintenant, on rentre dans un repos qui est transcendantal. Ce n'est pas pour utiliser un terme philosophique, mais ce mot, c'est au-delà de ce mot, comme s'il y avait un voile devant notre visage.
Et
il y a la réalité derrière ce monde ici, où tu trouves du repos. Il y a la réalité qui est dans le monde, derrière, dans le monde, la réalité que Christ nous a montrée, l'homme qui lui touche sans moi. Je ne suis pas un esprit. L'esprit n'a pas de sang et la chair, mais Christ, il est fait de chair et de sang, mais aussi de l'esprit. Il est monté, il ascende, il est monté, il est venu dans ce monde, il est descendu dans ce monde, il a traversé la porte, il a dit, paix soit avec vous, il a traversé le mur. Il a dit, sans ouvrir la porte, il a traversé. Mais reposez-vous. Ceux qui rentrent dans son repos, au verset 10, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Voici le parallèle. Voici la signification. Dieu a dit, c'est très bon. Et là, il s'est reposé. Comme c'est fini, il a dit, vous devez rentrer dans mon repos aussi, le repos que j'ai pour vous. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout, ne vous inquiétez pas. Reposez-vous tranquillement. Ralentis, fais-moi confiance, cherche-moi, tu me trouveras. Je suis pour toi et non pas contre toi. Je te donne de la nourriture, je te donne de la lumière.
Il n'y a
rien d'autre, mais Christ est la porte. Il est le chemin, lui, la porte. Il est la sortie de, pour nous.
On
s'est rassemblés ce matin pour célébrer cela lorsqu'on se fait cela tout le temps, pour se rassembler, apprécier le culte. Ce matin, recevez quelque chose de l'Esprit qui vous parle. Je suis pour vous, je suis pour toi, il devait dire. Je suis ton ami, je suis ton enseignant, je suis ton conseiller, ton réconfort. Je suis ton sauveur, je suis ton père. Je suis pour toi, je ne suis pas contre toi, je suis pour toi. Rentre dans mon repos, le repos que j'ai fait pour toi. Rappelez-vous, lorsque Jésus, le jour du sabbat, il n'a pas renié le sabbat. Il a dit, je suis le Seigneur du sabbat lorsqu'il a fait un miracle le jour du sabbat. L'homme n'était pas fait pour le sabbat, mais le sabbat était fait pour l'homme. L'idée derrière cela, c'était pour que l'homme rentre dans le repos. Et bien sûr, il y a des gens qui s'efforcent toute leur vie. Ils ont des combats, mais vous et moi, nous avons Christ. Et il est notre sabbat. Amen. Louez le Seigneur. Bonjour, quelques annonces ce matin. Souhaitez la bienvenue aux nouveaux ce matin. Les nouveaux, levez votre main.
Over there, thank you. Right over there, anyone else? All right. Right here.
S'il y a des nouveaux, levez votre main, on va vous donner quelque chose.
Just a couple of things to remind you about. There will be a fellowship lunch right after.
Après le culte ce matin, à la fin, au bout de la plaza, ici, dans le restaurant, $5 par personne, $15 pour une famille, il y a un repas de communion ensemble. $5 par individuel. Le drame, la pièce de théâtre pour la Pâque, on cherche des volontaires. Arrêtez-vous au centre de bienvenue, donnez votre nom si vous voulez aider, participer, être des acteurs.
Have a wear and carry permit. You know what that means. If you do, you don't worry about it. But if you do have one of those permits, there's a meeting tonight for you in Classroom 2 of the Bible College with our security team and Juan Lira. Please be there. That'll be after the service tonight in Classroom 2 of the Bible College.
Ça, c'est une annonce pour ceux qui veulent participer à la sécurité. Ce soir, il y a une réunion pour le culte. Salle numéro 2. On va prendre la Sainte Cène. Si vous voulez participer à la Sainte Cène, on vous demande qu'entre vous et le Seigneur, vous soyez confessés entre vous et le Seigneur. Vous mettez les choses en règle, en ordre. On va prendre les éléments et on va célébrer la Sainte Cène juste dans quelques minutes.
All right, would you turn in your Bibles, please, to the book of Habakkuk?
Tournez dans votre Bible. Dans le livre d'Habakkuk ce matin. J'ai décidé il y a quelques mois de cela que je commencerai d'enseigner sur le livre des petits prophètes. On ne fait pas beaucoup d'enseignements sur les petits prophètes, mais il y a des trésors là. Parfois, on se réfère à Osée, Malachi. Je veux couvrir certains. Et ce matin, on va regarder trois chapitres dans ce livre d'Habakkuk. Mais c'est profond. On va aller au travers du livre et on va avoir des. À la fin du sermon, peut-être vous allez dire, je crois que j'ai reçu quelque chose de cela. Il s'appelle Habakkuk, ce livre. C'est notre but ce matin. Il est dimanche 5 mars 2023 à Baltimore. Pasteur Schaller est le prédicateur ce matin, 11h du matin. Prions. Seigneur Jésus, on s'est rassemblés en ton nom pour entendre ta parole de ce livre de prophète
with application for our
avec
lives.
Des applications pour nos vies.
Minister to us where we are at.
Et un ministère auprès de nous, là où nous en sommes dans nos vies.
Common, everyday life.
Chaque vie est commune, and chaque all, jour de la vie. À la maison, lorsqu'on dort, lorsqu'on mange, lorsqu'on parle, on écoute, on apprend, on met les choses ensemble dans notre cœur, notre pensée. Nous te croyons, nous te faisons confiance. On grandit, on ne veut pas être bougé à droite et à gauche, balancé par tout vent de notre culture et les vents du temps de notre époque. On veut être enraciné et fondé dans notre foi afin que l'on puisse finir notre course avec joie. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus, amen.
Je veux
faire un point dès le départ dans Tite 3, 5. Vous êtes régénéré. Tite, chapitre 3, verset 5. C'est important pour vous de comprendre. Tite 3, 5. Non pas par les œuvres de justice, non pas à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais de la, selon sa miséricorde, il nous a sauvés par le lavage de la régénération. Ce mot, la régénération, de la racine de ce mot, il y a beaucoup d'autres mots qui sortent de la
génération.
On a génération,
genus and classification of
les gènes et la classification des gènes, la régénération.
Born of God.
Ça veut dire qu'on est né de Dieu. Chapitre 1, verset 23, le titre, né de l'Esprit, né de nouveau dans Jean 3, 5. Vous avez votre première naissance, Jean 15, 16. Paul a dit, Dieu était là parce qu'il m'a séparé du ventre de ma mère. Il m'a sauvé par sa grâce. Deux versets. Le ventre de ma mère, la première naissance, deux naissances, et j'ai régénéré par sa miséricorde ensuite, par le renouvellement du Saint-Esprit, chapitre, titre 3, verset 5, titre 3, vous n'étiez pas un croyant avant, non, vous n'étiez pas un croyant, selon le monde, on a élevé, éduqué dans le monde dans lequel on vit. Je crois dans l'évolution, les gens disent, je doute Dieu ou toutes les religions dans le monde, je ne sais pas laquelle est la bonne, la religion. Beaucoup de choses, des questions éthiques, le relativisme et toutes les façons populaires de penser que l'on a par la dans notre nature. Lorsque tu es régénéré, on a de nouvelles oreilles, un nouveau cœur. Tu commences à écouter. Et lorsque tu écoutes, c'est Jésus-Christ. Tu veux entendre ce que Christ dit. Si Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, tu l'entends. Tu commences à croire cela. Est-ce que c'est vrai?
Christ.
Et quelque chose d'intéressant se passe, tu ne le réalises pas, mais parfois tu vas quelque part, tu prends des directions, tu as une carte, c'est une façon d'aller quelque part, une carte qui est dessinée sur un bout de papier. Le terrain peut être tellement difficile pour aller quelque part. Le terrain est très difficile, tu n'as pas besoin d'une carte, tu as besoin d'une personne. Tu peux faire tout ce que tu peux avec une carte, bien sûr, mais lorsque tu arrives dans un endroit où il est écrit « ce sont des marécages, on a besoin de Dieu », tu arrives à cet endroit où il y a des doutes, tu as besoin de Dieu. Tu arrives dans un endroit où il y a de la crainte ou de l'incrédulité, de la dépression, tu as besoin de Dieu. Lorsque tu es né de nouveau, c'est un don de Dieu pour vous. Le Saint-Esprit qui nous montre le chemin, la vérité et la vie de Jésus. Il est notre guide.
Lorsque
où on va maintenant, il dit, suis-moi. Suis-moi. N'as-tu jamais entendu ça en tant que vous étiez enfant? Suis-moi. J'aime pas. Suis-moi. Suis-moi au travers de la foule. Reste avec moi. Juste suis-moi.
Quand tu es enfant,
je ne veux suivre personne. Tu vas suivre quelqu'un. Tu vas suivre quelqu'un de toute façon. Tu vas. Ta capacité, c'est un grand don que tu as d'entendre des sons. Hébreux, chapitre 5. J'aime cette partie-là. Je ne me rappelle plus qui a fait l'analogie.
Mais
dans une semaine, on sera à Budapest. Je n'apprends pas les langues facilement, mais j'ai appris quelques mots hongrois. Parce que tu entends un autre langage, ça se met ensemble, mais tu écoutes, tu essaies, parce qu'un mot finit, un autre mot commence, tu essaies de séparer les sens, tu essaies de distinguer les dons. Il y a un mot, parfois il dit « Est-ce que c'est un mot dans une autre langue? C'est un mot, oui. Tu dois avoir une oreille, tu dois apprendre en écoutant et tu dois commencer de réaliser que cette langue, ça marche et on peut parler ce langage. D'une certaine façon, lorsque vous êtes né de nouveau, tu es né de nouveau, tu commences à écouter. Tu commences à écouter ce que la Bible dit. Tu commences à écouter aux autres personnes. Et tu as un guide dans la vie. Je ne dis pas que les mains de Dieu, c'est comme une carte. Autant que je vais dire que Dieu vous donne un guide et tu peux entendre les paroles. Tu es capable d'entendre ce qu'il dit. Tu peux le suivre, lui. Il est écrit ici dans Hébreux, chapitre 5, versets 12 à 14. Hébreux chapitre 5, de 12 à 14.
Very fundamentals of God's oracles were his messages, his words.
Vous devriez être des enseignants. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous enseigne. Vous devez retourner à l'école. Vous devriez être des enseignants et vous devez retourner à l'école. Moi, je peux retourner à l'école. Je veux apprendre tout ça encore. Ça va, c'est bon avec moi. C'est mon guide.
Mon guide
qui dirige ma vie. La vie n'est pas facile. C'est pas facile pour tout le monde, tout le temps. Parfois, c'est un peu plus facile. Mais parfois, on frappe un mur. On est arrêté, on doit écouter. Vous pourriez être un enseignant, mais vous devez retourner et reapprendre encore. C'est OK avec moi, au moins si j'entends les paroles correctes, au moins si j'entends les bonnes choses, si je comprends ce qui est dit au moins. Peut-être ce que j'ai entendu la deuxième ou la troisième ou la quatrième fois, ça va rester avec moi. Ça va coller avec moi, ça va rester avec moi. Verset 12, Hébreux chapitre 5. Et vous avez besoin de lait et non pas de nourriture solide. Il y a une analogie ici avec la nourriture. Un bébé, image combien de fois? Un bébé qui a 6 mois, un an, combien de fois il mange? Chaque 2 heures, chaque 3 heures, il mange. Il grandit, il commence à manger de la nourriture solide et il dort la nuit. Ensuite, 3-4 heures plus tard, il a faim.
But when you're eating milk,
mais lorsque tu bois du lait,
tu bois du lait,
ce sont des intervalles plus courts. Et tu n'as pas la substance solide pour te nourrir ta masse corporelle comme un adulte. Tu n'as pas la nourriture solide. Celui qui utilise le lait, il n'est pas compétent dans la parole de justice. Il est comme un bébé. Les paroles sont comme blablabla. Oui, oui, c'est OK. On doit apprendre. Verset 13, on doit apprendre. Ce n'est pas compétent dans la parole de justice. Il est comme un bébé. Mais la nourriture, la viande solide, elle appartient à ceux qui sont d'âge mûr. Quiconque a étonné n'a pas d'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Discerner. Voici la parole de Dieu. Ça commence à se passer. Tu commences à séparer
les
paroles que tu entends et ça prend tout son sens. Tu commences à processer ce qui est dit, à réfléchir, à filtrer. Et c'est un autre langage, pratiquement. Il y a des gens qui viennent ici, parfois ils disent, j'ai aucune idée de ce que vous dites. Moi, c'est lorsque je suis devenu un croyant, ça s'est passé envers moi. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, les mots, le mot rédemption, le mot accompli, ou justice, ou la justification. Ces mots-là, je ne connaissais pas. Tu commences à apprendre. Dieu te guide. Tu commences à réaliser ce qui est correct et ce qui est mal, ce qui est bon. Et ce qui est mauvais. Tu commences à réaliser cela. Ça t'encourage. C'est bon. Ça, c'est du poison. Je ne fais pas cela. Je ne veux pas. Je ne regarde pas ça. Je n'écoute pas ça. Merci, non. Merci beaucoup. Je ne fais pas partie de ça, moi. Je ne fais pas ça. Ça t'est jamais arrivé, ça, envers moi? C'est venu de ton cœur. Tu as trouvé une façon de vivre et d'écouter, ou en fait, tu as compris une autre langue. Ça te guide dans la vie, pour l'utilité de la vie, et tu deviens compétent avec l'expérience, et tu peux discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. N'est-ce pas incroyable? Tu commences à dire, c'est OK, je ne veux pas me battre avec ça, je vais juste éviter cette chose-là. Cette chose-là ne m'édifie pas. Je m'en moque de ça, c'est pas. Il y a quelque chose qui est dans ton cœur. Ça se passe aussi avec les livres que tu lis. Je lis un livre, je le lis pendant 20 minutes et ça m'édifie. Je continue de le lire. Si ça ne m'édifie pas, au bout de 20 minutes, je n'ai pas le temps pour ça. Je ne dis pas que ce n'est pas bon pour moi. Je dis, je ne sais pas ce que c'est vraiment. Ça ne rentre pas en moi. Je ne comprends pas beaucoup de choses. Des conversations avec les gens, des films que vous regardez, des livres que vous regardez, les gens, est-ce que tu peux éteindre tes téléphones, est-ce que tu peux t'éloigner de quelque chose qui n'a pas ce son-là? Vous saisissez l'idée que je veux dire. Ça, c'est mon message. Ça, c'est le message. Retournez dans notre thème, dans le livre de Habacuc, dans l'Ancien Testament, le petit prophète. On peut aller à la maison et dire, j'ai appris un petit peu plus sur Habacuc.
Tu as appris quoi à l'église?
J'ai appris à propos de quoi?
Habacuc.
Il fait un jeu de mots en anglais. Habacuc, la prononciation tobacco. Il fait un jeu de mots, quelqu'un me dit quoi, mais non. Je n'ai pas de traduction pour ça. ça se coordonne pas. Habakkuk est le seul prophète qui a ce genre de message. Écoutez, habituellement, les prophètes prophétisent à propos de la nation. Habituellement, c'est à propos de la nation.
Ça,
c'est différent. Ce n'est pas à propos de la nation d'Israël. C'est une plainte envers Dieu. Habakkuk a ce problème-là.
Dieu,
je sais que tu es un Dieu juste.
Tu
aimes Israël. Tu te soucies d'Israël. Pourquoi est-ce que tu envoies une nation méchante? Une nation méchante, le nom de cette nation, il y avait un roi méchant, puissant. Les historiens ont dit qu'il était un loup-garou. Il est devenu un animal cette année.
And what was his name?
C'était quoi son nom?
Nebuchadnezzar. And the prophet is saying, you
le prophète
are
a dit,
the Chaldeans.
Tu envoies les Chaldéens.
That's another new word for the Babylonians.
C'est un nouveau mot pour les Babyloniens, les Chaldéens. Tu utilises
against your people.
Ces gens méchants contre ton
I
peuple. Je ne comprends pas cela.
So the first point here is,
le premier point ici,
he's questioning God.
Il questionne Dieu.
And he's saying, how does this work?
Et il dit, God. Comment est-ce que ça fonctionne sans Dieu?
Maybe you and I have complaints.
Peut-être
that we make
vous et moi,
God,
on a des plaintes
along the same
que l'on communique
why
à Dieu, un petit peu comme ça. Dieu, il y a du mal
why
dans le monde. Pourquoi est-ce qu'un enfant meurt dans sa jeunesse? Pourquoi a-t-il autant de douleurs? Pourquoi est-ce qu'il va y avoir, il pourrait y avoir une guerre nucléaire? Pourquoi est-ce que c'est si mauvais? Je dis ça à toi. Ma plainte est envers toi, Dieu. Ça, c'est le premier chapitre
d'Habakkuk.
Regardons quelques versets au chapitre 1. Au verset 2, Seigneur, combien de temps je vais pleurer ou crier et que tu ne m'entends pas? Et je crie envers toi, même dans la violence, et tu ne nous sauves pas. Verset 3, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force. Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Dans notre pays, ici, parfois on est déçu avec les dirigeants et les jugements qui sont rendus. On est déçu. L'histoire va retourner du temps des nazis en Allemagne. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils avaient un dirigeant puissant à la fin du régime. Peut-être 60 millions de personnes sont mortes. Des génocides, des civils, des Polonais, des Gitans, des Juifs, de la guerre, des guerres, et ainsi de suite. Pourquoi? C'est que Habakkuk a dit cette question à Dieu. On sait très bien que lorsqu'on approche Dieu dans ces termes-là, c'est un petit peu très délicat. Ce n'est pas très bon. On marche sur de la glace fine. Mais je dois être honnête. Il y a des moments, parfois, je ne comprends pas. La douleur est trop grande. La question est trop forte et bizarre. Et je ne sais pas quoi faire à propos de ça. Il dit cela au premier chapitre. Verset 12, il commence à décrire son dilemme. N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, Mon Saint, nous ne mourrons pas, ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Pourquoi, Dieu? Ça, c'est la question. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu? Quand le méchant dévore celui qui en est plus juste que lui. Beaucoup de meurtres dans la Bible, injustes, Christ, tué, meurtri par les méchants. C'est le premier point. C'est chapitre 1. Je pense que vous avez suivi ça avec moi. On va aller au point numéro 2 maintenant. Point numéro 1, c'est ma plainte à Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire. Le point numéro 2 et ensuite le numéro 3. Le point numéro 2, ça va avec le chapitre 2. En fait, avec Habakkuk qui devient calme. Il se calme, il écoute. Lorsque tu as une plainte à Dieu, tu fais ta plainte à Dieu, tu lui dis, ensuite tu te calmes. Tu as besoin de la direction. Tu as besoin d'une autre voix, pas ta propre voix. Tu dois attendre le cœur de Dieu, la pensée de Dieu. Tu dois travailler là-dessus en tant que personne. Il y a des gens qui sont en colère. Ils continuent de blablabla, ils sont en colère, et ils deviennent très voix haute, voix forte, et ils ne peuvent pas entendre, ils ont coupé l'autre langage, ils ne peuvent pas, ils ne sont pas compétents dans la parole. Je crois en Jésus, oui, mais je ne sais pas pourquoi Jésus ferait, ou il autoriserait cela, ou il ferait cela. Vous savez, ça c'est on comprend. C'est une façon de penser. La réponse est ici, au chapitre 2, verset 1. J'étais à mon poste. Dans les temps anciens, il y avait des tours, et des murs, les remparts, il y avait des gardes, la nuit des gardes. Contre les voleurs, les choses qui pouvaient se passer, qui pouvaient arriver, des animaux sauvages ou des gens sauvages. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il se veillait pour voir ce que l'Éternel lui dirait. Et Dieu va lui répondre. Je répliquerai après ma plainte.
And as he corrects me,
alors qu'il me corrige,
it sounds like Habakkuk apparemment, knows that Habakkuk, he'll be corrected
tout ce qu'il connaît va être corrigé par Dieu.
What will I answer him?
Et qu'est-ce que je vais lui répondre ensuite?
I think his counselors
je pense que les conseillers doivent être très sensibles au fait que les gens sont blessés, troublés beaucoup lorsqu'on conseille les enfants. Ils ont besoin d'être calmes. Ce qu'ils conseillent, je n'ai pas entendu une parole encore, mais je crois qu'il y a une parole pour moi. Je n'ai pas entendu, mais je crois que là, je veux être dans un endroit où je peux entendre. Mets-moi de côté. Je ne comprends pas. Mais je peux m'attendre à lui. Verset 2. Le Seigneur me répondit. Le Seigneur m'adressa la parole. Il n'a pas été en colère contre moi. Il a arrêté de parler parce que moi j'avais mes problèmes. Mais ensuite j'ai écouté et il m'a répondu. Il dit, écris la vision. Écris la prophétie. Grave-la sur les tables. Sur des tablettes. Afin que qu'on la lise couramment, qu'on la lise à celui qui court, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Point numéro 2, il répond dans le temps. Le temps. Le temps. C'est une grande partie de la vie, le temps. Quand ça va se passer? Quand est-ce que je vais être vengé? Quand est-ce que le royaume du millénaire arrive? Quand est-ce que Christ revient? Vous vous rappelez ça? Dans l'Ancien Testament, Christ n'était pas arrivé encore. Quand est-ce que Christ revient? Quand est-ce que le roi revient? Quand est-ce que le monde va changer? Ça, ce sont des questions. Et Dieu dit, il arrive.
Ça vient. Will be judged.
Les Chaldéens seront jugés. Ça arrive, c'est écrit ici. Ça va se passer. Il écrit à propos de la vision dans le futur, des choses qui vont arriver, la prophétie. Derrière l'histoire, il y a quelque chose de plus. C'est tout ce que l'on cherche dans notre cœur. Un monde meilleur où il n'y aura pas de chagrin, pas de larmes. Il
n'y
aura pas d'hôpitaux. Pas de station de police, pas de cimetière. Un monde où il
n'y
aura pas la désobéissance, il n'y a pas de péché, il n'y a pas besoin de la loi. Il y a la direction divine dans le royaume avec une langue que le Saint-Esprit nous parle et nous sommes capables d'être d'accord avec lui de tout notre cœur et de dire Amen tout le temps. On arrive à un verset ici qui on est très familier avec cela. On connaît cela, il est écrit aussi dans le Nouveau Testament. C'est une prophétie dans le temps qui est déjà fixée. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Ça veut dire quoi le mot tarde? Retarder, attendre. Apparemment, ça semblerait comme un long moment, un long temps, des décennies. Apparemment, 70 ans, c'est un temps très long pour la prophétie. C'est très long. Mais Dieu dit, Dieu dit quoi? Une année pour lui, c'est comme 1000 ans pour nous. Il est dans un temps différent. Mais il dit, ça arrive. Ça arrive. Attends-la. Ça vient. L'Empire chaldéen va être bouleversé, renversé par l'Empire persien. L'Empire persien va être renversé par les Grecs. Et les Grecs vont être renversés par l'Empire romain. L'Empire romain va être détruit par la venue de Christ ultimement. Et c'est de devenir une grande montagne qui va remplir la terre. Daniel chapitre 7 et chapitre 8. Apprenez cela dans vos écritures. C'est fantastique de lire cela. Chapitre 7 et chapitre 8 dans Daniel. Chapitre 2 aussi. Lisez cela.
What does this mean now, verse 4?
Qu'est-ce que ça signifie ici au verset 4?
God gives a word of advice.
Dieu donne une parole, un conseil.
This is at the very heart of the book. We're almost
ça, c'est le cœur du livre, là, bientôt fini. Mon âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Il y a l'orgueil, il est tenté. Il dit, l'orgueil va nous aveugler. C'est écrit dans 1 Timothée chapitre 6. L'orgueil nous aveugle.
Le novice
est élevé par l'orgueil. 1 Timothée 3:6. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais ça vient du monde. 1 Jean 2:16. L'orgueil de l'homme va la rabaisser, mais l'humble va être élevé en esprit. L'orgueil va avant la destruction, mais avec l'humble et la sagesse. Celui qui est de l'orgueil ne cherche pas après Dieu. On pose la question aussi au numéro 1, un endroit sur les crânes. La réponse, c'est il vient. La vision est réelle. Il y a un meilleur monde qui arrive. Il dit, mais attention que tu ne sois pas aveuglé en élevant ton propre cœur et de me questionner, Humilie-toi toi-même sous la main puissante de Dieu et je t'élèverai et je te montrerai au chapitre 2, verset 4, Habacuc. Mais le juste vivra par sa foi.
That's how we got saved.
C'est comme ça qu'on a été sauvés dans Romains chapitre 1. Le juste vivra par la foi. C'est comme ça qu'on grandit dans notre sanctification. Hébreux 10, verset 26 au 36. Hébreux chapitre 10. Le juste sera justifié par sa foi. Il vivra par sa foi. Six fois, c'est utilisé dans le Nouveau Testament. Il est écrit. Le juste vivra par sa foi. Il est écrit six fois. Pasteur Matty était notre invité la semaine dernière. Un de ses messages, il a dit, il était missionnaire en Ouzbékistan. Il dit l'histoire. Il dit, je le détestais d'être là. Je détestais l'odeur. La vie de village, je n'aimais pas. La façon dont c'était. Je ne pouvais pas trouver un endroit où vivre. Je vivais avec une famille. Ma chambre, c'était comme la gare centrale. Il y avait des gens ici, dans la maison, tout le temps, dans la salle à manger. Je voulais partir du pays. Et Dieu lui a parlé, il a dit. Il a dit, tu restes. Je suis avec toi. Et Dieu a mis l'amour dans son cœur. Avec les peuples de l'Ouzbékistan, les gens de là-bas. Il a vécu là-bas pendant six ans. Il est resté. C'était un réveil qui s'est passé. Ça a marché. Dieu a fait ça, Dieu
a administré.
Comment il a fait ça? Par la foi. Le juste vivra par la foi. On peut dire aussi le méchant fait des excuses. Et on est déçu, nous, avec le plan. On est déçu avec le plan. Je suis déçu, le point numéro un, je suis déçu avec ton plan. Dieu dit, mais si tu peux attendre, si tu peux m'anticiper, tu vas courir, écrire la vision, et ceux qui vont la lire vont courir avec. Car le juste vivra par la foi. La valeur de notre foi. Comment est-ce que tu t'éloignes de la drogue dans les rues, les drogues qu'il y a dans les rues? Je ne dis pas si tu as des médicaments, des prescriptions, je ne dis pas cela. Parle avec votre docteur. Je ne dis pas d'arrêter vos médicaments. Je parle des drogues, des mauvaises habitudes, des mauvaises drogues dans la rue par la foi. Tu prends des bonnes décisions d'arrêter, d'apprendre le langage. On apprend le langage et on est guidé par Dieu. Dieu va vous diriger, Dieu va vous aider. Dieu va te diriger. Dieu va vous montrer. Le dernier point, et le troisième point, c'est sur l'écran, c'est dans Romains, chapitre 3, versets 17, 18 et 19. Je ne pense pas qu'on peut avoir un texte meilleur que ça. Donc c'est Habacuc, chapitre 3, verset 17. Habacuc.
Neither shall fruit be in the vines.
Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier